Bien, bonjour, bon matin dans ce petit matin frisquet. Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, l'édition du vendredi 9 novembre 2018. C'est Hélène Bédard qui vous parle. Et avec moi, à la régie, j'ai Jean-Sébastien Laliberté. Bon matin.
Bonjour Hélène.
Un plaisir de te revoir.
C'est un plaisir d'être ici en ce vendredi.
Merci. Et je salue à nouveau Francine Forget, qui devrait être avec nous vendredi prochain, qui est de retour de son long périple au Japon. Et elle devrait revenir normalement aujourd'hui, mais de grâce, de prendre un répit avant de revenir. Il y a comme du 12 heures, je crois, de décalage. Alors, voilà.
Bon, mais on lui souhaite une bonne adaptation à notre fuseau horaire.
Oui, c'est gentil, merci. Allez, voici. Donc, en première partie d'émission, je vais vous jaser de, en fait, comment prendre mieux soin de soi, pas hésiter à consulter un psy au besoin. Je vous parle de tout ça tout à l'heure. Et en deuxième partie, je vous jaserai de les enjeux de la retraite et un petit peu sur l'âgisme. Je vous reviens dans un moment. Alors voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, comment prendre mieux soin de soi grâce à tout plein de choses. Et entre autres, voici quelque chose de fort intéressant qui vient. C'est un bulletin mensuel, je crois qu'il est mensuel, ou c'est ça, de la SSQ, l'assurance SSQ, qui dit « Quand consulter un psychologue ?» Eh bien voilà, on va vous faire part de ces réflexions. Tout un chacun, on vit des moments difficiles un jour ou l'autre. Faut-il pour autant consulter un psychologue ? Voyez. Quand le faire pour éviter de plonger dans une détresse psychologique? Mais attention, c'est pas parce que tout le monde le fait ou encore parce que ça a fait le plus grand bien à votre meilleur ami que vous devez entreprendre une psychothérapie. Quand devez-vous réellement consulter un psy, comme on dit? La règle d'or, n'attendez pas de ne plus être capable de faire vos activités habituelles pour songer à en consulter un. Les symptômes se manifestent, soyez à l'écoute. Comme grande fatigue, manque de motivation, on dort plus mal, on a perdu l'appétit, on a de la difficulté à quitter nos obligations sociales, professionnelles ou familiales. On sent un grand vide, des fois une grande tristesse, on est irritable pour rien, on est anxieux. On se sent différent et vous ne vous reconnaissez plus. Avant de prendre rendez-vous, consultez votre médecin. Il peut avoir des raisons purement physiques à vos difficultés. Votre bilan de santé est exemplaire? La consultation s'avère peut-être la prochaine étape. Vérifiez donc si un programme d'aide aux employés vous est offert au travail, parce que le coût de certaines de ces rencontres serait alors assumé en partie par votre régime collectif. De plus, plus de gens consultent non pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils sont malheureux ou qu'ils souhaitent mieux se connaître pour reprendre leur vie en main. Et pourquoi pas? Quelle belle idée! Vous vivez quelque chose de difficile, vous pouvez consulter de façon ponctuelle. Nul besoin d'une thérapie de plusieurs mois ou plusieurs années pour régler une situation particulière. Vous divorcez, vous ne savez pas comment l'annoncer aux enfants, vous avez un problème de santé chronique, vous venez de l'apprendre, vous ne savez plus comment vivre avec ça. Vous angoissez à l'idée que votre fils adoptif souhaite renouer avec ses parents biologiques. Bref, beaucoup, beaucoup d'histoires. Dans votre milieu de travail, vous n'avez pas à tout prendre sur vos épaules. Une consultation auprès d'un psychologue peut être bénéfique pour vous régler à régler certains de vos différends. Bien que vous ayez entrepris la démarche, vos collègues en tireront profit, et surtout vous. Également, si vous avez une équipe sous votre responsabilité et que vous souhaitez que le changement se vive de façon harmonieuse pour chacun, bien faites-vous aider. Encore une fois, chacun va en tirer profit, vous d'abord et les autres, par rayonnement ensuite. Il existe une foule de raisons de consulter un psychologue. Quand le faire, quand vous vous sentez prêt et que vous faites pour les bonnes raisons. Quand votre malaise interfère sur votre vie quotidienne, quand vous vous sentez que vous n'arrivez pas à trouver ou dans votre entourage les réponses ou les solutions dont vous avez besoin, pour réfléchir sur vous-même ou votre vie, dans tous les cas, il est primordial de le faire d'abord pour vous-même, car c'est de cette façon que vous trouverez la motivation de débuter et de compléter votre démarche. Alors, c'était un bulletin de réflexion sur quand consulter un psychologue. Et ça venait de la SSQ parue en janvier dernier. Nous allons poursuivre. J'ai aussi un autre très beau texte qui vient de Santé Vie. Travail, santé, vie. C'est mieux prendre soin de soi grâce à des relations positives. Malgré tous nos efforts pour bien manger, bien dormir suffisamment et faire souvent de l'exercice, surtout régulièrement, il arrive qu'on se sente malade physiquement et qu'on ait du mal à travailler. Ah, dans ce cas-là, on sait qu'ignorer nos symptômes ne fera qu'aggraver notre état et qu'il vaut mieux en informer notre entourage, peut-être rester à la maison et peut-être aussi prendre soin de nous un petit peu plus. Alors, pourquoi agit-on différemment lorsqu'on ne se sent pas bien mentalement? C'est une belle question. On peut favoriser notre système physique et mental de plusieurs façons. Par exemple, en mangeant sainement, en dormant suffisamment et en faisant de l'exercice. Et je vous assure qu'en faisant de l'exercice, on dort un peu plus. Toutefois, en ce qui concerne la santé mentale, un autre facteur joue un rôle important. Les relations. Les relations positives qu'on entretient avec notre conjoint, les membres de notre famille, nos amis, nos collègues, des voisins, qui contribuent à renforcer notre estime de soi tout en nous procurant un sentiment d'appartenance commune et aussi une raison d'être. Par contre, les relations malsaines ou prévalentes, par exemple l'affrontement, le jugement ou le dénigrement, peuvent nuire à notre santé mentale. Souvent, pour être en mesure de créer un bon réseau de soutien social, il faut définitivement exclure de notre vie les personnes qui ont sur nous un effet toxique ou négatif. Or, peu importe à quel point les personnes de notre entourage se soucient de notre bien-être, elles ne peuvent pas nous aider si on ne parle pas du problème. Ce n'est toutefois pas toujours facile. En raison de la stigmatisation qui est encore aujourd'hui associée à la maladie mentale, beaucoup de personnes refusent d'admettre qu'elles sont atteintes d'une maladie mentale ou qu'elles ont besoin de soins. Pourtant, accepter de recevoir de l'aide et du soutien est le premier pas sur la voie du rétablissement, comme je le mentionnais un peu plus tôt dans mon autre chronique. Voici donc quelques conseils pour vous aider à amorcer la conversation avec les membres de votre réseau social. Choisissez comme premier interlocuteur quelqu'un qui vous aime de façon inconditionnelle, soit votre conjoint, soit votre meilleur ami, soit un parent. Il pourra vous fournir du soutien lorsque vous déciderez de parler de votre maladie à d'autres personnes. C'est peut-être la condition la plus importante. Abordez le sujet avec une seule personne à la fois. Ne vous dispersez pas. Soyez prêt à composer avec différentes réactions. Les gens peuvent être tristes, déconcertés, contrariés ou bouleversés d'apprendre cette nouvelle que vous allez leur dire. Soyez conscient que vous ne recevrez pas le même soutien de la part de chacun. Si les gens ne réussissent pas comme vous l'aviez prévu, assurez-vous d'avoir quelqu'un à qui parler, à votre meilleur ami ou à votre thérapeute. Prendre soin de soi n'est pas un comportement égoïste. C'est une façon d'être indulgent envers soi-même et de donner l'occasion aux autres d'être bienveillants à notre endroit et à notre égard. Dites-vous qu'en faisant preuve d'ouverture et en étant disposé à accepter de l'aide, vous pourriez inciter d'autres personnes à faire de même. Alors voilà! C'était une courte réflexion sur mieux prendre soin de soi grâce à des relations positives. Ça vient de Travail, Santé, Vie et ça a été publié en octobre dernier.
De l'être près des doigts, vivre profondément. page est blanche, je vais écrire, vivre profondément. Je m'en vais, vivre dans moi. Je m'en vais, vivre dans moi. Le présent est un être qui a faim. Soif de vivre. Le présent est un être qui a faim, faim de soif de vivre. Je m'en vais vivre dans le bois. Je m'en vais vivre dans le bois.
Retour à l'essentiel et à la nature, la pièce Dans les bois, tirée du plus récent album de Richard Séguin qui s'intitule Le Retour à Walden, Richard Séguin sur les pas de taureau.
Merci beaucoup, quelle belle mélodie, merci. Et ça va dans le sens du prendre soin de soi-même, merci. Belle continuité. Je vais d'ailleurs vous faire part d'un autre article que j'ai trouvé, c'est un éditorial que j'ai trouvé dans ma revue Chouchou, c'est la revue Virage, éditée par la FADOC. Et c'est la marche et le bénévolat. Ces sujets se retrouvent assez souvent au cœur de l'actualité sociale. Plusieurs organismes publics et privés, chercheurs, éminents spécialistes, conférenciers, ont développé des approches pour faire la promotion de l'une et de l'autre de ces activités, c'est-à-dire la marche et le bénévolat. L'une étant une solide base pour le maintien de notre forme physique, alors que l'autre vient définir et consolider nos relations avec autrui. L'organisme, la FADOC, est un porteur assidu de ce message sur l'importance d'être actif physiquement et socialement, convaincu que la pratique de la marche et le bénévolat sont des avenues à considérer pour l'atteinte d'un équilibre personnel et d'une qualité de vie indéniable. Une collègue très perspicace lors d'une rencontre du groupe disait ceci, sans doute à la blague, et je la cite le plus fidèlement possible. « Le bénévolat fait marcher la tête et la marche fait du ménage dans notre tête. Et pourquoi pas ?» Aussi paradoxal que cela puisse paraître a priori, la marche et le bénévolat pourraient bien être, l'un et l'autre, des gestes différents, issus de notre volonté individuelle, mais comportant l'un et l'autre un potentiel significatif de bienfaits, à la fois personnel et collectif. Un peu compliqué tout ça, mais pas tant. La pratique de la marche, c'est une décision personnelle, un choix qui permet d'abord de prendre soin de soi, de sa santé. Mais ce choix d'agir, pour notre santé nous permet aussi d'être en mesure d'être présents aux autres et de pouvoir leur venir en aide. Le bénévolat, lui, repose essentiellement sur la décision personnelle de participer socialement, d'accepter de mener des actions significatives ayant des impacts sur les autres. Le bénévolat, évidemment, c'est d'abord, bien sûr, un geste altruiste, un geste conscient, empreint de solidarité sociale, mais c'est aussi une source de fierté et de satisfaction personnelle. Discrète, mais ô combien présente. Au terme d'une journée de bénévolat bien remplie, le bénévole s'endort en se disant que sa journée valait la peine d'être vécue. J'ai l'audace d'ajouter ceci. Marchez, faites-vous du bien par la marche, et si le cœur vous en dit, engagez-vous donc dans le bénévolat, la plus belle façon de faire du bien aux autres. En ce sens, si vous désirez vous impliquer bénévolement cet automne, lisez les articles sur Trottibus dont je vous ai parlé récemment, accompagnez les enfants par la marche, en aller-retour à leur école, ou abonnez-vous à une infolettre. Il y a tellement de programmes intéressants Nous affichons des demandes de bénévoles à tous les mois. Le bénévolat, c'est donc une belle opportunité de rencontrer des gens sympathiques et passionnés. En finale, je veux m'adresser à tous les bénévoles actifs qui, par leur disponibilité, leur implication, sont très appréciés et sont aussi porteuses pour la santé de l'organisme. Elles fournissent un tonus additionnel à l'actualisation de la programmation et aux activités. Je vous invite donc maintenant toutes et tous à vous adonner quotidiennement à la marche. C'est le moyen le plus fidèle, le plus sécuritaire de nous sortir de la passivité et aussi, attention, de ralentir notre vieillissement. Au plaisir de vous croiser sur les sentiers du bénévolat et d'y marcher ensemble pour la même cause, celle d'assurer une qualité de vie aux personnes aînées ainsi qu'à l'ensemble de la population. J'ai ici quelque chose d'amusant et c'est aussi dans le même esprit, la même idée. 6 bonnes raisons de se marier en plein hiver. Et voilà donc. Alors, on va vous en parler un petit peu. Il y a loin des vins d'honneur au soleil, des cérémonies qui bouchonnent à la mairie, le mariage d'hiver revient au goût du jour. Désormais, dit-on, près de 20% des fiancés font le choix de s'unir en novembre, entre novembre et le mois de mars. Voici quelques raisons qui ont décidé ces gens d'opter pour un mariage hors saison. D'abord, pour son originalité, les invités retiendront beaucoup votre audace. Se marier en plein hiver, ça surprend. On veut étonner notre famille, reconnaît Patricia, qui va se marier le 22 décembre. Ils ne veulent pas avoir le même mariage que tout le monde, note Lucie Garnier, qui est une organisatrice des mariages en hiver. Sauf que ces dernières années, les mariages d'hiver se généralisent. Avant, nous avions un creux à partir de septembre. Maintenant, c'est beaucoup plus étalé. Il y a le côté chaleureux aussi. Là, loin des cocktails au soleil, des tenues légères et des parties de pétanque ou des parties extérieures, les mariés aiment la décoration d'esprit hivernal, les lumières et le côté cocooning. C'est un peu comme si on a choisi une saison, un thème de saison Noël. La question ne se pose plus, dit-elle. On fait tout à l'intérieur. Quand on peut, on choisit même un lieu avec un feu de cheminée et on prévoit des plaides pour les invités. Fort agréable. Pour sa rapidité, pour se marier en été, il faut s'y prendre d'avance, soi-disant 2 ans, dit-on, de réservation, contre 6 mois en hiver. Mais attention, restez prudent, ça se remplit plus vite qu'on pense. Il paraît que c'est déjà complet pour tout février 2019, précise la spécialiste de l'organisation de ces mariages. Il y a des économies aussi à faire. Bien qu'il y ait une salle à chauffer, les locations et les prestations sont moins chères. La négociation est plus facile, ça peut baisser jusqu'à 30%. C'est pas négligeable. C'est l'occasion de faire des économies ou d'opter pour des services de plus grande qualité. Le mariage d'aujourd'hui est différent d'il y a 10 ans. Les gens attendent autre chose. Ils ont un thème dans l'idée. Fini le dictat des mariés et invités frigorifiés, donc pour ne pas avoir froid dans leur robe bustier les soirs d'été, en se mariant l'hiver, on choisit une tenue plus chaude, forcément. Et curieusement, ben, on a moins froid, c'est bien sûr. Les invités portent des manteaux et des tenues adaptées. Et les mariés, ben, elles associent leur robe avec un boléro plus épais, plus chaud. Le cas de Patricia. Patricia dit « Moi, j'ai choisi une robe de soirée plutôt qu'une robe de mariée pour pouvoir mettre une veste ou un gilet par-dessus. » Et pour les belles anecdotes, vous vous en doutez encore, les mariés d'hiver devraient vous convaincre. L'an dernier, Lucie Garnier, qui est l'organisatrice, a fait la cérémonie dans une patinoire. Je ne peux pas vous montrer les photos, mais c'est tellement joli comment ça a été imaginé. À la sortie de l'église, les flocons tombaient, on a dû pousser les voitures qui patinaient et ça s'est transformé en bataille de boules de neige. Alors voilà. Et puis évidemment, il fait vraiment très froid, ici on a une autre mariée, Sylvie, qui disait qu'elle portait d'horribles sous-vêtements thermotactiles sous sa belle robe. Je ne vous raconte pas le fou rire de la nuit de noces. Moi aussi, ce jour de février... Mais aussi ce jour de février, plus chaud qu'un mois de juin où les invités étaient en bras de chemise. Ou bien ce mariage organisé l'an dernier par Esprit de Fête, c'est ça, sur une patinoire la veille de Noël, c'était magique. Alors, que ce soit en été Ou en hiver, les gens trouvent toujours le mariage merveilleux, conclut-elle. Ce qui compte, c'est qu'ils correspondent à leur personnalité. Et puis, mariage neigeux, mariage heureux, dit-on.
Musique classique, décor floral, petit four et coupe de champagne. C'est fou ce que c'est original de se marier à la campagne. Il y a le bon et l'arrière-bon, monsieur le maire, et même un curé. Moi, si je fais une gueule d'enterrement, c'est que t'as l'air d'être le marié. C'est pas normal. Il y a un malaise, c'est comme une manif. Sans merguez, à ton mariage. À ton mariage. Il y a une mariée, bien entendu, qui est tellement belle aujourd'hui que pour un peu, je l'aurais pas reconnue. Sans ses beaux yeux verts, brocolis, et de belles mères en beau papa, qui par ailleurs s'appelle Bernard. Tranquille, peinard, on se tutoie, c'est chou, les ex 68 tard. Quel beau samedi dominical, l'église. C'était vraiment génial. À ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage.
Y a la nouvelle femme de ton père avec sa jolie robe à froufrou qui félicite à fond ta mère sur sa jolie robe à trou-trou. Et puis sur trois générations, y a tous les proches qu'on ne voit jamais. Y en a d'ailleurs qui sont très cons. C'est vraiment bien organisé. C'est si beau, le charme discret des grandes familles recomposées. À ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage.
Mais c'est déjà l'heure du discours, que le temps passe vite aujourd'hui. Moi qui suis douille à ton amour, j'ai le rôle de la meilleure amie. Et voilà qu'une bande d'individus me pousse à mettre une folle ambiance pour que je cause de ta morue. Vu que je suis le témoin, j'en ai de la chance. C'est trop cool que t'épouses Sandrine, c'est vraiment... une super copine. À ton mariage,
à ton mariage,
ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage, c'était magique. Tu devrais le refaire plus souvent. Puis, d'un point de vue sociologique, c'était vachement enrichissant. Et puis d'abord, faut pas se moquer. Le mariage, c'est beau comme une croix. D'ailleurs, Cécile nous rapportait qu'il faut souvent s'y mettre à trois. Remarque, tu peux compter sur moi. La jalousie, je connais pas. À ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage, je l'avais mauvaise. Comme dans une manif sans merguez. À ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage.
Musique classique, décor floral, l'église aussi, c'était génial. À ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage. Sans rancune, meilleur vœu, mon vieux. Le mariage, c'est se mettre à deux pour affronter toutes les galères que t'aurais pas eues célibataire.
La fort sympathique Agnès Bill qui nous chantait « À ton mariage
». Merci beaucoup, comme ça tombait bien. Oui, effectivement, et en discussion... durant la chanson, c'est, il est vrai que se marier l'hiver comporte certaines difficultés sur la route, notamment. Et, mais j'ai une petite brève ici qui concerne justement le trafic. Alors, c'est, celle-ci, c'est « Vive le trafic ». Alors, c'est Annick Poitras dans Actualité qui a eu cette réflexion en octobre dernier. Elle a parlé du bon côté des bouchons de circulation. Et j'en parle maintenant parce que Dieu sait qu'on en a des entraves à Montréal, c'est une et une autre. Alors, voyons voir ce qu'elle en dit. Les coûts de la congestion routière s'est évalué à 4,2 milliards de dollars pour le Grand Montréal en 2018. Ben, ils devront être revus à la baisse. Une nouvelle étude avance que les bouchons, contrairement aux idées reçues, ne causent pas de tort à l'économie. Bon, on continue. Pour arriver à ce constat surprenant, deux chercheurs américains qui ont étudié le trafic au Québec, bon, ont comparé le trafic automobile avec le produit intérieur brut, le PIB. Les salaires et la création d'emplois dans 89 régions métropolitaines des États-Unis sur une période de 11 à 30 ans. Oh, et à leur grande surprise, ils ont constaté que la congestion n'avait pas d'incidence négative sur ces indicateurs économiques. Il existe même une association positive entre la congestion, le PIB et les emplois. Il peut y avoir des raisons valables de lutter contre la congestion, mais l'idée que le trafic nuit à l'économie ne semble pas en être une, écrivent les chercheurs. Voilà donc une découverte qui aidera à faire passer la pilule la prochaine fois que vous serez pris dans un bouchon. Ou pas. Alors, c'est un côté amusant de Vive le trafic, c'était de l'actualité du mois dernier de Annick Poitras. Eh bien voilà, on poursuit avec des petites nouvelles brèves que j'ai trouvées toujours dans l'actualité et ceci est fort intéressant. Afin de réduire ces meubles qui finissent au dépotoir, IKEA a lancé l'idée d'un projet pilote visant à racheter ses produits. Par exemple, les clients d'un magasin de Sydney en Australie peuvent ramener un meuble usagé et recevoir en cadeau une carte, donc de la valeur du rachat. Une fois remis en état, le meuble sera revendu au prix qu'il a été acheté. Belles initiatives et ceci a été similaire. Ça se déroule également au Japon et en France. Le géant suédois ambitionne de ce fait d'avoir fait une économie de 100% circulaire d'ici 2030. Belle idée. Et voici une autre petite brève. C'est la bibliothèque de l'avenir. Avec ses 5 niveaux et ses centaines d'étagères grimpant au sol du plafond, la bibliothèque de Tianjin Binhai en Chine, éblouie par sa splendeur. Elle a été conçue pour accueillir 1 300 000 ouvrages, mais ses rayonnages supérieurs sont pour l'instant garnis de faux livres en trompe-l'œil. Cette bibliothèque, créée par le cabinet d'architectes néerlandais, a attiré plus de 1,8 million de curieux depuis son ouverture en octobre 2018. Nous vous quittons, restez avec nous, le deuxième volet se poursuit après la pause. Eh bien, nous revoilà de retour après cette courte pause. Hélène Bédard au micro. Alors, je vais poursuivre cette deuxième partie en vous parlant de l'âgisme et son environnement, son isolement, et ensuite des enjeux de la retraite. Et je vous reviens dans un petit moment. Alors voilà, je voulais vous parler de réflexion sur l'âge de la vieillesse. En fait, c'est ce qu'on appelle l'âgisme. Son environnement, son isolement, sa solitude, ce sont des réflexions qui ont paru dans un site qui s'appelle Réflexion et c'est écrit par Jérôme Pélissier. Le rythme de l'environnement dans lequel on vit, certaines personnes se sentent plus vieilles, par exemple dans un environnement urbain avec une circulation rapide des personnes, des véhicules, que dans un environnement plus calme. À l'inverse, certaines autres personnes se sentiront plus facilement vieilles parce qu'elles associent cela à l'ennui, soit être dans un environnement peu sollicitant ou un environnement où elles peuvent multiplier certaines activités. La vieillesse est-elle comme on l'a parfois pensé, associée à un repli volontaire sur la sphère privée? Les personnes qui s'enferment chez elles et ne sortent plus le font souvent parce que l'inadaptation de l'environnement rend toute sortie impossible ou dangereuse ou simplement non motivante. Il existe des formes de solitude, sans doute mi-subie, mi-acceptée, qui peuvent naître d'une sorte de décalage entre soi et la société environnante. Ce décalage, ce sentiment d'être d'un autre temps, d'être étranger à l'époque, n'est pas toujours de la faute de l'époque. Lorsque les références culturelles, l'utilisation de la langue, les souvenirs, les loisirs ne sont plus partageables aisément, on peut préférer rester isolé avec son chat, ses livres ou sa mémoire. Qu'est-ce qui nous fait sentir vieux? Nous allons retrouver, bien entendu, tous les éléments déjà invoqués. L'âge, le regard des autres, le statut social, la place dans la famille, que chaque personne va considérer différemment selon sa personnalité, ses convictions, son histoire. Au poids que chacun va accorder à chacun de ses aspects extérieurs vont s'ajouter d'autres, plus intérieurs, plus intimes, qui vont modeler les premiers et l'ensemble du sentiment d'être vieux. Évoquons-en rapidement quelques-uns. La manière dont on conçoit la vieillesse influence la manière dont on la vit. Vieillir, c'est le contraire de ce que l'on croit. Au moment où l'on n'a pas encore fait ses choix, on est alourdi par le poids de la tradition des vérités enseignées lorsqu'on est plus jeune. On croit aux idées répandues dans les journaux, à celles qui courent les rues. On adhère à tout. On porte le poids de sa famille, de sa tradition, de son groupe et de la société. Est-il étonnant qu'on se confie en disant « j'ai, pour ce qui me concerne, ma famille, la tradition, le groupe, la société, j'ai comme vécu l'avancée en âge. Je dois me détacher de tous ces poids-là. Vieillir, c'est rejeter les idées préconçues, être plus léger. » Oui, il est donc possible de se réjouir d'être plus autonome, de mieux penser, d'être sensible à plus de choses, de mieux comprendre les autres à 85 ans plutôt qu'à 25 ans. Mais encore faut-il pour cela, comme le rappelait si bien Simone de Beauvoir, que notre environnement et les contraintes sociales nous aient permis de faire notre grandir, vieillir, cette progressive libération. Je poursuis toujours sur la même réflexion. La vieillesse souvent nous éprouve dans les deux sens du terme. Elle nous frappe autant qu'elle nous révèle et peut nous faire grandir selon ce que nous en faisons. Il y a dans beaucoup de vieillesse une quantité considérable de petites défaites et de petites victoires. Quelles sont-elles? La première, c'est la relation avec son corps. Corps qui est parfois malade, handicapé, corps toujours plus lent, plus fragile. Ce corps que je ressens fragile, auquel je ne suis donc plus... Je le ressens donc plus comme avant, je dois être plus attentif, je le perçois, il habite plus fortement qu'autrefois. La vieillesse est-elle l'âge où l'âme peut enfin épouser le corps? La relation avec son passé, c'est celui des bilans, celui de la réparation de certaines failles. Mais attention, évitons tout généraliser. On ne peut pas éprouver ce besoin du bilan comme tout dictat. Il n'y a pas un travail du vieillir qui serait identique pour tous. Il semble qu'une certaine pensée de la mort dans une société où celle-ci intervient plus fréquemment à des âges avancés soit donc désormais l'apanage de la vieillesse. Prudence là aussi, on peut, jeune, penser à la mort comme on peut, la veille de son décès, préférer n'y pas penser. Le ressenti de notre capacité d'adaptation ne diminue pas durant la vieillesse. On a pu le croire jadis en constatant que certaines personnes âgées étaient dépassées. Il n'était pas rare, et il est encore possible qu'en quelques années, une personne se retrouve à cesser son activité professionnelle, perdre son conjoint, déménager, soigner, puis perdre ses parents, devenir arrière-grand-mère, être atteinte d'une maladie ou d'un handicap. À cause de tous ces changements, oui, notre environnement nous devient un peu hostile et notre capacité d'adaptation est peut-être un petit peu dépassée. Il n'y a pas d'âge de la vieillesse. Il n'y a pas de définition chronologique de la vieillesse. Il y a seulement le sentiment d'être vieux et ce sentiment se modifie en permanence. Comment y réfléchir sereinement quand tant de vieilles personnes cachent leur vieillesse, cachent leurs émotions par peur d'être accusées de sensiblerie sénile, par peur d'être exclues de la famille? Nous ne pourrons réellement comprendre ce qu'est la vieillesse que lorsqu'elle pourra être vécue librement, sans crainte d'exclusion ou de stigmatisation par la majorité des vieilles personnes. Actuellement, nous devons tant nous battre pour que les droits des personnes âgées soient aussi respectés que les droits des autres citoyens que nous hésitons à mener le combat à l'essentiel, c'est-à-dire la reconnaissance d'une vieille personne est une vieille personne et peut nous parler en tant qu'experte de sa vieillesse, de son sentiment d'être vieux, librement, comme Ulysse. Après un beau voyage.
exceptionnel. Le soir venu, nous coucherons seulement dans les plus beaux motels. Pendant quelques heures, je conduirai jusqu'aux abords de mon sommeil. Puis je te refilerai le volant chassant toutes les fourmis dans tes orteils. Pour n'importe où je m'en.
La poésie musicale de Daniel Bélanger avec la pièce « Fou n'importe où » de son album de 2001, « Rêvez mieux ».
Rêvez mieux, oui. Rêvons mieux nos demains. Merci beaucoup. Je vais poursuivre avec une autre réflexion, le départ à la retraite et ses gens et ses enjeux psychologiques. J'ai trouvé cet article écrit par Pascal Schenck dans le Figaro. Quitter son activité professionnelle peut réveiller des sentiments inattendus et cette nouvelle vie doit être soigneusement préparée. Les débats sur les retraites se multiplient et cela devrait durer. Mais qu'en est-il du vécu psychologique de ceux qui quittent leur travail, c'est-à-dire qui cessent de se rendre dans certains endroits, de fréquenter des collègues, des clients et surtout endossent un nouveau statut social? Ainsi, François, chercheuse en biologie, dit ceci, « Je me suis jetée sur les livres que je n'avais pas eu le temps de lire et qui me faisaient envie depuis des années, les expositions que je n'avais jamais eu le temps de voir, jusqu'à me demander finalement, au bout d'un mois, mais quel est le sens de cette jouissance inutile et solitaire? » À ce stade, Françoise était donc victime de ce que certains psychologues appellent le syndrome de l'agenda. Elle s'était efforcée de remplir compulsivement toutes les cases de son agenda pour éviter de penser à cette nouvelle étape de la vie. Puis je me suis raconté ma guerre professionnelle poursuit. Les dossiers que j'avais bien menus, que j'avais ratés, je me suis sentie soulagée de ne plus avoir tout à coup à me battre ce que j'avais fait durant 40 ans. Mais en même temps, j'étais renvoyé à un grand questionnement du type qui est le suivant. Comment trouver ma place quand on quitte son activité professionnelle? La journaliste Danielle Lafaire, qui a mené une enquête auprès de plus d'une vingtaine de nouveaux retraités de tous horizons et de milieux socioculturels, dit ceci. L'arrêt du travail, certains n'y pensaient pas, tandis que d'autres en rêvaient beaucoup. Mais cela n'empêche pas le basculement total qui arrive chez la plupart d'entre eux avec cette étape. À l'écoute de ces témoins, d'autres surprises nous attendent. J'ai réalisé à quel point, pour cette génération qui est aussi la mienne, c'est-à-dire les baby boomers, le travail avait vraiment été un pilier de l'identité. D'ailleurs, ce terme de retraite ne correspond plus à la réalité que beaucoup veulent vivre, poursuit la journaliste. Ni retiré, ni retrait, ni inactive. Parmi les difficultés à dépasser, l'illusion de la retraite appréhendée au départ comme un nirvana pour les uns ou comme une chute irrattrapable pour les autres, le tout ou rien en quelque sorte. Et l'appel d'air provoqué par l'arrêt de travail dans sa réalité réveille certains sentiments inattendus, le manque de confiance en soi ou l'impression de toute puissance, voire le déni de la réalité. Peut-on échapper à tant d'ambivalence? On peut certainement atténuer ces bouleversements émotionnels en anticipant. Bon, 2 ou 3 ans à l'échéance, il faudrait commencer à se poser les bonnes questions. Après mon départ en retraite, où ai-je envie de vivre? Quelle activité, pas seulement un emploi qui est rémunéré, me permettrait-elle d'utiliser mes compétences ou les talents que j'ai d'une manière qui est générante? Ou encore, avec qui ai-je envie de nourrir des relations sociales? Un vaste chantier, selon la journaliste, qui est ni plus ni moins pour le retraité, celui de son autonomie à conquérir. Il faut bien se préparer pour sculpter sa liberté, résume-t-elle. Une création qui demande encore beaucoup de travail et beaucoup de réflexion. C'était donc un texte de Pascal Schenck, tiré dans le Figaro à l'automne dernier. Revenons pour vous parler de, toujours de le sujet de la retraite. Et ici, j'ai un texte de Travail, santé, vie et à la retraite des journées remplies d'activités intéressantes. On poursuit l'effet positif de ces réflexions. Bien que dans notre jeunesse, nous ayons rêvé de prendre notre retraite, de nos jours, ce passage à une nouvelle étape, comme je disais plus tôt, représente un défi. Un défi pour les aînés, évidemment. Nombre d'entre eux sont physiquement et mentalement plus en forme que les générations d'aînés précédentes et désirent fortement apporter leur contribution à la société de façon active. Heureusement, de nos jours, prendre sa retraite ne signifie pas nécessairement la fin de la vie active. Prenez le temps d'évaluer vos besoins, de voir ce que vous aimeriez faire et d'explorer les ressources et les activités qui correspondent à votre nouveau mode de vie. Le temps dont vous disposez est le vôtre et surtout rendez-vous cela agréable. Réfléchissez à vos centres d'intérêt, aux occupations qui vous ont toujours attiré. Consacrez du temps aux amis, aux anciens centres d'intérêt, mais assurez-vous aussi d'envisager de nouvelles avenues, nouvelles activités, partir à la découverte de possibilités qui représentent des défis, mais à votre portée. Voici quelques suggestions qui peuvent vous aider à démarrer. Effectuez donc une auto-évaluation. C'est-à-dire, désirez-vous travailler d'une façon ou d'une autre? Aimeriez-vous retourner aux études afin d'acquérir des nouvelles compétences ou d'étudier dans des domaines qui vous ont déjà intéressé? Dans le passé, avez-vous déjà été obligé de mettre vos champs d'intérêt de côté ou de laisser tomber des passe-temps en raison d'une absence de temps et de loisirs? Le bénévolat, comme j'en parlais plus tôt, pourrait-il vous intéresser? Aimez-vous les activités de plein air, golf, jardinage, promenade, sport, nature, exploration? Aimez-vous les activités intérieures telles que le bridge, la lecture, l'artisanat, les échecs, la cuisine, menuiserie, les activités créatives? Bref, il y en a une et une autre. Aimez-vous les activités sociales? Si oui, à l'intérieur ou à l'extérieur? Aimez-vous voyager et désirez-vous le faire? Aimez-vous les arts, la musique, la culture? Aimeriez-vous être membre d'un groupe de théâtre amateur, sur scène ou en coulisses? Aimeriez-vous jouer d'un instrument de musique? Suivre des cours de chant, faites-vous partie d'un organisme ou de l'aide communautaire ou sociale, aimeriez-vous y investir davantage? Aimeriez-vous enseigner dans des domaines qui vous intéressent ou dans vos champs de compétences, soit qu'elles soient rémunérées ou bénévoles? Et enfin, peut-être participer à de nombreuses collectivités offrent aux aînés l'occasion de s'impliquer dans le voisinage. Voici donc où vous adressez pour vous renseigner sur les possibilités d'emploi, de bénévolat ou d'aide. Visitez votre bibliothèque, le centre communautaire ou les journaux régionaux pour vous renseigner sur des clubs locaux et aussi des associations de bénévoles. Pour ma part, je peux vous dire que c'est très bénéfique de se renseigner auprès de ces associations. Explorez l'Internet afin de trouver des sites web à l'intention des gens qui partagent vos centres d'intérêt. Si vous n'avez pas Internet à la maison, allez à la bibliothèque et utilisez l'ordinateur de cette bibliothèque locale. Vérifiez les cours offerts par les collèges communautaires. Le fait que vous soyez un membre retraité de votre collectivité ne signifie pas que vous n'ayez plus de rôle à y jouer. C'est bien important, ça. La plupart des municipalités offrent des activités et des ressources à l'intention des retraités. Communiquez donc avec le bureau de votre municipalité et renseignez-vous à ce sujet. Demeurez actif et surtout intéressé, car à la retraite, des journées remplies et d'activités intéressantes, c'est possible. C'était donc un texte très positif de Travail Santé Vie qui est paru le mois dernier. C'est un volet que je trouve sur Internet.
On somnolait chez nous comme ça. Dans nos jungles, le calme plat. Il a déboulé dans le soir en disant mes mal sont encore au port. Moi j'étais larguée, classée, elle était bouche bée, et lui c'était Robert Taylor. Comme dans ses nouvelles pour dame de Somerset Maugham. Fait pour deux, c'est bon bout. Trois là-dedans, ça va plus du tout. Il avait gagné la cup, fumé Navy Cut, claqué les tirelis. Quand elle enlevait sa main de ma main, ses yeux de mes yeux. Ça me faisait souffrir comme dans ces nouvelles pour dame de Somerset Maugham. Je voudrais qu'il s'en aille, de quoi j'ai l'air. Avec mes détails, mes haltères. Il portait des lions sur le dos, pour elle comme cadeau, ça salissait tout. Moi je me sentais vieillot, fidèle, propriétaire d'elle, malheureux comme tout. Comme dans ces nouvelles pour dame de Somerset Maugham. Les capitaines beaux, lâchez-moi. Les femmes sont sensibles à tout ça. Laissez-nous tranquilles, basket, chocolat, noisette, sur notre canapé. Allez, Somerset, ailleurs, cassez les autres cœurs. Des autres fiancées, comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham.
L'écrivain Somerset Maugham, mis en chanson par Alain Souchon et ici interprété par la chanteuse Karen Anne.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Avant de terminer l'émission, je vais vous parler de projets fous et d'arrêtés municipaux qui sont particulièrement étonnants. Je vais vous faire sourire. En Chine, ceci c'est tiré de West France, c'est un volet Internet que j'affectionne particulièrement. Alors, c'est paru le 19 octobre dernier. En Chine, le projet fou d'une deuxième lune pour s'éclairer la nuit. Je ris déjà avant de le lire. Le ciel de la ville de Chengdu pourrait être éclairé par un satellite géostationnaire équipé de panneaux solaires permettant ainsi de se passer de lampadaires. Voyons voir. Et si une deuxième lune faisait donc son apparition dans le ciel chinois? L'idée peut faire sourire, mais est sérieusement envisagée par l'Empire du Milieu. Pour éclairer donc la ville de Chengdu, située dans le sud-ouest du pays, une satellite, donc géostationnaire, équipée de grands panneaux solaires, sera envoyée dans l'espace. Ce lancement serait possible dès 2020. En cas de réussite, 3 autres satellites pourraient le rejoindre. D'après le patron de la société privée spécialisée dans l'aérospatiale à l'origine du projet, M. Chong Feng, la lumière de cette lune artificielle serait 8 fois plus importante que celle du réel astre lunaire. Le but? Que les 14 millions d'habitants de Chengdu puissent se passer de lampadaires. Selon le média d'État, le quotidien du peuple, le remplacement des sources d'énergie traditionnelles par cette lumière artificielle permettrait une réduction de la consommation d'énergie et par la même occasion de sacrées belles économies, 1,2 milliard de yuan par an. C'est l'équivalent de 156 millions d'euros. Excusez-moi si je rigole, c'est parce que c'est tellement fou, mais au fond, il y a un impact économique énorme. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un impact sur les humains et les animaux? Le projet ne fait malgré tout pas l'unanimité. Les détracteurs pointent l'impact que pourrait avoir l'absence de nuit sur le corps humain, notamment sur notre sommeil, mais aussi sur les animaux, chauves-souris, oiseaux migrateurs et insectes pourraient être désorientés. Mais cette critique a déjà une réponse. D'après Kang Winmin, qui est directeur de l'Institut d'optique de l'École aérospatiale de la ville, la lumière du satellite serait semblable à celle d'un crépuscule et ne devrait donc pas affecter les habitudes des animaux. Ce projet n'est pas sans rappeler un dispositif mis en place en Norvège en 2013. 3 miroirs ont été installés à 400 mètres en surplomb de la commune de Rjukan, désolé pour la prononciation, détournant ainsi les rayons du soleil vers ce village qui était privé d'ensoleillement pendant la moitié de l'année. Tiens donc! Alors voilà, c'était pour vous faire sourire le projet fou d'une deuxième lune pour s'éclairer la nuit. C'était paru dans Ouest France le 19 octobre dernier.
Hélène, moi, ça me parle beaucoup, ça. J'ai plein d'interrogations par rapport à cette lune-là. D'abord, ben pas nécessairement d'abord, mais commençons par ce point-ci. Ce satellite qui sera fixe, est-ce que ça veut dire que d'autres pays à travers le globe, que la Chine, pourront en profiter sur un cycle de 24 heures? Ou est-ce que il va rester dans le ciel de la Chine 24 heures par jour, donc on va le voir pendant le jour? Ça me pose tout plein de questions d'éthique. Et aussi avec les lampadaires, bon, je veux bien qu'on fasse des économies, mais quand on va en forêt, on veut pouvoir voir les étoiles. Si on rajoute une lune qui est 14 fois plus lumineuse que celle-ci, on parle de pollution nocturne aussi, là, c'est plein d'enjeux. Je suis curieux, vraiment.
J'ai pas de réponse à ça, c'est malheureusement, mais je vais me renseigner. Par exemple, je vous promets que je reviens avec, si je peux trouver des réponses par rapport à ça, mais toutes vos questions sont légitimes.
Merci.
Et fort bien intentionnées. Écoutez, je vous reviens avec ça, si je le peux. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Grand plaisir.
Au plaisir.
Bye bye.
Au revoir.